talmudique. Les commémorations dont nous avons été les témoins ces dernières semaines nous ont invités encore une fois à interroger la question de la mémoire et du souvenir. « Souviens-toi et n'oublie pas », dit le texte biblique, « Zechor al tishkach », une injonction adressée à la seconde personne du singulier pour souligner que ce souvenir, c'est raconter des histoires sans jamais en oublier une, sans penser que l'histoire collective nous dédouanerait du devoir de raconter l'histoire de chaque personne, de chaque nom, de chaque visage, à commencer par sa propre histoire. Ici, résonne avec force la phrase de Philippe Roth. L'homme est fait de mémoire, et s'il n'est pas fait de mémoire, il n'est fait de rien. Parole de romancier qui nous fait comprendre que la maison du souvenir ne peut se passer de littérature, car celle-ci fut toujours visionnaire à la fois du futur, mais aussi du passé à construire et à reconstruire. Bien sûr, la littérature ne fait pas revenir les morts, mais elle donne à la civilisation dont ils furent porteurs la chance de survivre et peut-être même de redevenir l'expression vivante de tout un peuple qui à son tour inscrira le développement de sa propre histoire. Certes, civilisation est un mot vague, toujours sujet à interprétation, mais qui commence toujours avec une langue. C'est à l'une de ces langues, qui entretient un lien particulièrement fort avec la mémoire et la littérature, que sera consacrée l'émission d'aujourd'hui, je veux parler du yiddish. Et pour en découvrir toute la beauté, toute la complexité et tous les enjeux dont cette langue est le centre, j'ai le très grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui l'une de ses plus grandes ambassadrices et l'une de ses plus grandes spécialistes, Rachel Hertel, bonjour.
Bonjour.
Rachel Hertel, vous êtes professeure émérite de l'Université Paris Diderot, où vous avez été professeure de littérature anglaise et où vous avez fondé le Centre d'études judéo-américaines. Vous avez contribué dans l'espace universitaire à former des traducteurs de yiddish dans un souci d'assurer la permanence du yiddish et de son espace culturel. On vous doit plusieurs essais importants et vos traductions nous ont permis de découvrir et de lire de nombreux auteurs yiddish. Je signale la parution d'un nouveau livre que vous avez traduit de Alpern Levik dans Les bagnes du tsar aux éditions de L'Antilope et la critique est unanime pour dire que c'est un véritable chef-d'œuvre. Voilà ce que dit votre biographie officielle, mais quelques lignes d'une encyclopédie ne peuvent pas dire la richesse d'une vie, les strates multiples d'une histoire, les détails des souvenirs et des oublis, les méandres d'une recherche, la subtilité des sentiments, la richesse des rencontres et la fécondité de nos engagements. Mais parfois, nous avons la chance de pouvoir entendre, au-delà d'une biographie officielle, une voix plus intime, à la fois plus directe et plus personnelle, une voix qui s'est confiée, c'est-à-dire abandonnée avec confiance, à l'oreille d'un autre et à sa bienveillance. Cela donne une œuvre à deux voix, pour laquelle il faut beaucoup de talent pour qu'elle soit réussie. C'est le cas dans ce livre d'entretien que vous avez réalisé avec Stéphane Bou, qui sort ces jours-ci, Rachel Hertel, chez Albin Michel. Des entretiens qui furent d'abord, je tiens à le préciser, une série à voix nue, ici même sur France Culture. Métamorphose d'une mélodie, si je puis dire, votre mélodie, où l'écrit se fit voix, puis écrit, puis à nouveau voix, et ainsi au fil du temps. Je ne vous demande pas quel exercice vous avez préféré, quoique, mais nous avons là deux formes différentes de la transmission de la mémoire, l'écrit et l'oral, qui ont chacun leur fonction. Rachel Hertel.
Tout à fait. Les émissions de France Culture à voix nue ont inspiré l'éditeur pour me demander le livre. Et ensuite, le livre s'est fait à deux voix. C'est Stéphane Bou qui posait les questions et moi qui donnais les réponses. Et véritablement, je crois que jamais je ne me suis livrée de manière aussi intime que dans ce livre. Parce que j'ai souvent du mal à parler de moi. Le jeu, comme disait l'autre, est haïssable, mais là, véritablement, c'était un devoir de mémoire en plus pour tous ceux qui m'ont influencé, pour tous ceux qui ont posé en quelque sorte le socle de ma vie.
Alors, dans ce socle de votre vie, il y a, je dirais, un noyau dur qui apparaît tout au long du livre, qui nous fait découvrir une adresse, un mot important, l'adresse, qui est le 9 rue Guy Patin. Quelle est cette adresse, Rachel Hertel?
Alors, cette adresse, c'est véritablement un lieu qui ressemblait au lavoir de Picasso et des autres peintres. C'est une adresse qui a recueilli tous les réfugiés poète, écrivain, peintre, toute l'intelligentsia yiddish rescapée de la Shoah, que ce soit en Union soviétique ou en dans les camps. Et c'est un endroit qui était d'une fécondité, d'une richesse de création absolument incroyable. On y lisait tous les soirs des poèmes, de la prose, on voyait du théâtre, des marionnettes, il y avait des chanteurs, notamment Moretzka, il y avait des danseurs, il y avait des pianistes, et tous les soirs il y avait autre chose qui perpétuait ce qui avait été écrit avant et ce qui se créait sur place, parce que la créativité de ces immigrés était absolument incroyable.
On était en quelle année ?
Moi, j'étais dans cette maison entre 48 et 52.
Et vous y êtes arrivée après un long périple, Rachel Hertel ?
Oui, c'est-à-dire que je suis née en Pologne et nous avons, après le pacte germano-soviétique, mon père biologique a été déporté au goulag parce qu'il était bundiste, c'est-à-dire ennemi du peuple, et d'après les critères soviétiques. Et donc il a été déporté et nous, ma mère et moi, nous avons été déplacés et assignés à résidence dans un village, dans un hameau plutôt de Sibérie.
Et après
eh bien, nous sommes, comme ma mère a eu l'intuition de garder la nationalité polonaise, nous avons été rapatriés en Pologne et nous sommes passés par Wrocław ou Breslau, qui se disait Breslau en allemand, et ensuite à Lodz, donc en Pologne. Et là, mes parents et toute cette génération ont commencé à reconstituer ce qui avait été détruit, à essayer de faire revivre le passé. Et malheureusement, avec le passage au communisme qu'a connu la Pologne vers 1948, la plupart des Juifs ont quitté la Pologne pour d'autres destinations. Et nous, nous sommes arrivés en France en décembre 1948.
Vous avez parlé de la destruction. Aujourd'hui, on parle de la Shoah, on parle de l'anéantissement, mais vous insistez souvent pour utiliser le terme yiddish qui est un peu difficile à prononcer, mais qui est peut-être important à commenter, le terme de Khurban.
Oui, le terme de Khurban, parce que, en fait, c'était le terme utilisé par les victimes de cette destruction. Et ça fait allusion, évidemment, à la destruction des deux temples de Jérusalem. Et cela fait allusion à ce que les Juifs rescapés ont appelé le troisième Khurban, der dritte Khurban, c'est-à-dire la destruction définitive, c'est-à-dire celle du peuple.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot Khurban en yiddish reprend avec une prononciation différente exactement le terme hébreu de Khorban, qui veut dire la destruction, qui nous fait comprendre d'emblée que le yiddish est porteur aussi de mots hébraïques. Et je pensais aussi, en vous écoutant, au mot zikaron, qui veut dire la mémoire, et qui est en yiddish, ça devient...
Zikorn.
Voilà, et donc là on a quelque chose qui est tout à fait intéressant de ce rapport entre l'hébreu et le yiddish. Et je me disais, en vous posant la question sur l'écrit et l'oral, écrit-oral dit aussi quelque chose d'intéressant de cette langue, le yiddish, dont la quintessence est germanique, mais dont les lettres qui servent à l'écrire sont hébraïques. Voilà encore une rencontre intéressante entre l'oralité et l'écrit, Rachel Hertel.
Oui, parce que l'écrit est en lettres carrées, comme on dit, en lettres hébraïques, et le yiddish a rassemblé, au cours de sa longue histoire, a rassemblé des mots de diverses origines. Mais 15% à peu près de la langue contient des mots hébraïques comme zikorn, c'est-à-dire la mémoire, et ces mots sont désignés par des mots loshen kodesh, c'est-à-dire la langue sacrée, et il fait partie de la langue yiddish et elle est translittérée, elle est écrite exactement dans l'écriture hébraïque.
Alors, en écoutant votre voix, vos différentes voix, j'ai compris que le yiddish est une langue de douceur, une langue d'étude, une langue de l'intime, une langue de cri, une langue de silence, une langue de nostalgie, une langue d'espoir, une langue de poésie, une langue de tous les jours, une langue de jeu, une langue timide et une langue d'orateur. Mais on pourrait dire cela de nombreuses langues. Sans être intraduisible, comme certains l'affirment, qu'est-ce qui fait la particularité du yiddish? Quelle est sa singularité? Qu'est-ce qui fait que le traduire est une expérience unique en son genre, Rachel Hertel?
Oui, parce que le yiddish, effectivement, a toutes les caractéristiques que vous venez d'énumérer, c'est tout à fait juste. Mais par ailleurs, la traduction, qui est toujours faisable, est néanmoins très difficile. Elle est très difficile, non pas par techniquement parlant, elle est difficile par tout ce qu'elle véhicule, c'est-à-dire la mémoire du Churban, notamment, et donc la traduction est à la fois un acte testimonial et un acte de deuil. Et il faut en quelque sorte se plonger en apnée dans cette langue pour arriver à remonter à la surface et d'une langue qui est en disparition, faire une langue vivante qui est celle de la traduction.
Vous reprenez souvent le terme de plonger en apnée. Vous parlez aussi de l'archéologue qui va dans les profondeurs pour rechercher des morceaux, des tessons, et pour le reconstituer comme un puzzle. Mais on comprend de votre propos que même si cette langue, comme vous le dites, est une langue assassinée, on peut la faire vivre justement par le travail et la passion qui vous anime de la transmettre, parce que vous l'avez transmise pendant des générations, vous avez formé des élèves et des traducteurs, Rachel Hertel.
Tout à fait, et d'ailleurs je voulais rectifier, le centre d'études judéo-américaines a duré jusqu'en l'an 2000, jusqu'à ce que je prenne ma retraite, et non pas 1980, mais l'an 2000. Et donc effectivement, nous avons pu former des enseignants, ce qui était là pour le premier but de notre travail, et on en a, et qui est des enseignants qui travaillent maintenant dans les différentes associations qui assurent la transmission du yiddish. Et nous avons formé dans un séminaire que je faisais chez moi à la maison des traducteurs. Et la traduction me semble absolument fondamentale parce que beaucoup, bien sûr, dans cette langue qui est en voie de disparition, beaucoup n'ont pas accès directement à la langue. Donc, ils passent par d'autres langues, par la langue de la traduction. Et cette langue de la traduction, elle permet, comme disait Peretz, c'est dans un conte qui s'appelle « La métamorphose d'une mélodie », eh bien, la langue yiddish passe dans une autre langue, c'est-à-dire elle évolue. Le conte de Peretz raconte l'histoire d'une mélodie, d'un nigun chassidique qui passe d'un endroit à un autre, d'une période à une autre et qui se transforme au fur et à mesure. Et donc, il en va de même de la traduction du yiddish qui s'adresse à la fois à ceux qui n'ont pas accès et qui sont juifs et à ceux qui n'ont pas accès parce qu'ils ne sont pas juifs et n'ont pas accès à cette langue. Et c'est bon, la double visée, c'est-à-dire d'une part donner à lire cet univers absolument exceptionnel, donner à lire à des juifs et à des non-juifs, notamment en ce qui me concerne à des Français de langue uniquement francophone, ce qui permet, je pense du moins, de faire entrer l'imaginaire de la littérature et de la culture yiddish dans la langue française.
Ma prière. Je ne sais à qui la porter, ma prière, mais je la porte. Je ne sais à qui la lire, ma prière, mais je la dis. Elle se glace sur mes lèvres, ma prière, mais je la porte. Elle prend vie dans un éclat de colère, ma prière, mais je la dis. Elle se brise tant de fois en débris, ma prière, mais je la porte. Elle s'élève sur 6 millions de tombes, ma prière, mais je la dis. Elle sombre et se lamente sans parole, ma prière, mais je la porte, vers celui dont je ne sais s'il entend, ma prière, mais je la dis. Poème de Lévique, ma prière, 1955. Musique de Chostakovitch, l'andante du concerto numéro 2, 1958. C'est la même période. Chostakovitch lui-même au piano. Il y a, dans ce que nous venons d'entendre, une poétique du silence, Rachel Hertel, dont vous avez beaucoup parlé dans votre livre « La langue de personne », où vous commentez d'ailleurs ce magnifique poème de Lévique. Une poétique du silence que vous opposez à une poétique du cri, deux poétiques très différentes, dont le personnage principal est Dieu et le rapport à Dieu. Qu'appelez-vous poétique du silence et en quoi diffère-t-elle de la poétique du cri, Rachel Hertel?
Oui, alors effectivement, on trouve surtout après le Churban, on trouve une poétique du silence et une poétique du cri. On pourrait parler de... par analogie, une poétique en majeur et une poétique en mineur. Alors la poétique en majeur, c'est celle de Katzenelson, par exemple, qui a écrit le chant du peuple juif assassiné, qui est plein de blasphèmes, plein d'invocations, qui est une prosopopée, qui est épique en même temps, et qui invoque Dieu, parce que Dieu est en fait celui qu'on entend, celui qui entend ou qui n'entend pas. Mais c'est le seul à la hauteur du désastre qu'a connu le peuple juif. Et si on a le temps, je peux lire un passage traduit de Katzenelson. Qui s'interroge, comment chanter dans un monde devenu pour moi désert? Comment chanter quand mes mains sont des nœuds de douleur? Où sont mes morts? Je cherche mes morts, ô Dieu, dans toute immondice, dans les monceaux de cendres. Mes morts, où êtes-vous? Criez du fond du grain de sable, au fond des pierres, du fond de la poussière, du fond de la flamme, du fond de la fumée, c'est votre sang et votre sève et la moelle de vos os, c'est votre vie et votre chair, criez, criez bien haut. Criez des entrailles des bêtes dans la forêt, du poisson dans l'eau, ils vous ont dévoré. Criez dans la fournaise, criez grands et petits, je veux entendre un hurlement, un cri de douleur, une clameur. Crie, peuple juif assassiné, crie, pousse ton cri. Alors nous sommes en plein dans la prosopopée et dans l'invocation de ces morts qui ne reviendront jamais. Et il y a l'épouvante, il y a l'horreur, il y a des images d'une force inouïe. Et je dirais, enfin, par analogie avec la musique, que c'est véritablement un poème en majeur. Et le poème en mineur, dont je donnerai un exemple, utilise des mots nus, des mots complètement dénudés, des mots qui se propagent doucement, sans aucune emphase. Très, très terre à terre, en quelque sorte. Un exemple, c'est celui de Eichenrand, qui a écrit des poèmes qui se, par exemple, dans le désert. Dans le désert du silence, on enterre les mots. Les soleils noirs des regards tournent froid autour du sang. Abandonné, on est par la solitude même. Les vents de l'oubli éteignent les noms. toute naissance a le visage des décombres. Donc vous voyez la différence entre la tonalité majeure et la tonalité mineure, avec l'utilisation de mots simples et de mots nus et extrêmement courts. C'est idyllique, c'est une lamentation, et c'est tout en douceur et en retenue, c'est de la litote.
Alors, ce que j'aime bien dans les deux exemples que vous choisissez et dans cette différence que vous faites, on retrouve un peu les deux parties de cette andante de Chostakovitch qui commence dans une sorte de lenteur, de douceur extrêmement triste et nostalgique, et tout à coup il y a l'entrée du piano sans être exubérant, et quand même on a l'impression dans une autre tonalité.
Tout à fait, c'est effectivement, on passe de cette nostalgie que vous signalez à une vitalité que vous signalez également beaucoup plus importante.
Alors la poétique du silence que vous venez d'évoquer n'est-elle pas au cœur, nous venons de parler de poésie, mais n'est-elle pas au cœur du dernier livre de Lévique, Dans les bagnes du Tsar, ce roman que vous venez de traduire aux éditions de l'Antilope, comme je le disais, salué unanimement par la critique comme un chef-d'œuvre? N'y a-t-il pas l'invention non seulement d'une langue, mais d'une manière d'être au monde et à Dieu qui n'est ni un athéisme, ni une laïcité, ni une religiosité, ni un mix de tout cela, mais une création originale que l'on pourrait appeler, dans un certain sens, en yiddish, la Yiddishkeit?
Bien, je pense que c'est tout à fait la Yiddishkeit, ça le représente, et un humanisme et une empathie absolument immense pour tous ceux qui l'entourent. Et ceux qui entourent l'auteur, ou plutôt le narrateur, ce sont des, dans la geôle où il se trouve, sont des arrêtés de
droit commun.
De droit commun et d'autres des politiques. Et ces deux populations trouvent en quelque sorte, malgré leurs différences, une entente qui est celle de l'humanité.
Alors justement, dans ce livre « Mémoire yiddish », j'ai l'impression que vos entretiens avec Stéphane Bou font écho à ce souffle d'humanité que l'on rencontre dans le roman de Lévique et dans les romans de votre propre mère, dont vous avez aussi été la traductrice, romans à propos desquels Anne-Philippe a pu écrire « Ce qui nourrit ce livre rare ». Elle parle du roman « Le vent qui passe », c'est l'amour, je veux dire la compassion pour les êtres vus, aimés tels qu'ils sont, capables du meilleur et du pire, tour à tour, veulent, courageux, égoïstes, généreux, mesquins et admirables, sans cesse affrontés au désespoir et repartant vers l'espérance. Il y a une forme de messianisme dans cette littérature yiddish que vous défendez avec beaucoup d'amour, vous aussi Rachel Hertel, un messianisme humaniste qui fut aussi celui de tous les révolutionnaires de ce Yiddishland.
Oui, c'est que Lévique en est un exemple parfait, parce que c'est à l'âge de 16 ans qu'il s'est rallié à cette mouvance de révolutionnaire. Et ce qui ressort du livre, c'est l'empathie qu'il a pour les êtres autour de lui. Ce qui ressort, c'est le caractère sacré du corps quand quelqu'un est fouetté parce qu'il a commis une faute selon les critères de la prison. Le narrateur est aussi l'accoucheur de mots. Par exemple, il fait parler les gens et révéler leurs secrets. Et les secrets sont souvent... comme tous les secrets sont souvent honteux, mais néanmoins il compatit à ces méfaits. Il évoque le problème du terrorisme et l'inquiétude que, une fois que les révolutionnaires auront gagné, ils se transforment en bourreaux à leur tour, ce qui est bien entendu écrit en 58, c'est-à-dire qu'il a déjà connaissance de ce qui sera le goulag et de ce qu'est le goulag, en fait, et donc il reprend cette inquiétude qui est la sienne. Et donc c'est à la fois un texte testimonial et un texte testamentaire qui mélange la mémoire, l'oubli, l'imaginaire, et c'est un genre véritable, il appartient au genre qui est devenu un véritable pierre d'achoppement dans la littérature contemporaine, qui est la littérature carcérale. Et donc, il nous renvoie à Dostoïevski, La Maison des Morts, il nous renvoie à Tchekhov avec L'île de Sakhalin, il nous renvoie, bien sûr, à Solzhenitsyn et à Solzhenitsyn essentiellement, et à d'autres auteurs qui, malheureusement, ont connu le bagne d'une manière ou d'une autre.
Alors vous dites que le narrateur fait accoucher les mots. Le roman se termine par une scène d'accouchement, justement.
Absolument. C'est un récit plus qu'un roman, je dirais. Oui, c'est un récit. Et il se termine effectivement dans la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième partie du roman où le narrateur et les détenus qui sont ses compagnons de détention voguent sur la Neva et au milieu de tout ce proscrit, au milieu de toutes ces souffrances, une femme accouche et tous les détenus sont absolument fasciné, absolument muet devant cet événement qui annonce évidemment le futur.
Dans ce récit, il y a cette scène d'hallucination du Christ dans la cellule auquel il s'adresse et il a l'impression qu'il descend de sa croix. On a l'impression de voir un tableau de Chagall en même temps, mais je pense qu'on retrouve aussi toute cette question du dialogue avec Dieu que j'ai évoqué précédemment, Rachel Hertel.
Oui. Alors, ce qui se passe dans la cellule, dans la geôle où il se trouve avec ses quatre détenus politiques et ses quatre détenus de droit commun, c'est qu'il y a dans la cellule également un crucifix avec la crucifixion de Jésus. Et au moment de son hallucination, il voit descendre le Christ et s'approcher de lui. Et il entame un dialogue avec lui en disant qu'il a beaucoup de choses à régler avec lui. Et il s'adresse au Christ comme étant ce qui était fréquent dans la littérature yiddish moderniste. Le Christ, en quelque sorte, représente, bien malgré les contes qui ne sont pas réglés, représente aussi la souffrance juive pour tous ces auteurs et pour Lévi, évidemment.
Alors, dans le texte que j'ai lu de Anne-Philippe qui parlait des romans de votre mère, il y a cette phrase à laquelle j'aimerais revenir, sans cesse affronté au désespoir et repartant vers l'espérance. J'aime cette formule. Quelle est votre espérance pour le yiddish, Rachel Hertel, ce yiddish qui porte une telle mémoire, une telle vitalité, une telle créativité, peut-il disparaître? N'est-il pas en voie de guérison et de renaissance, comme le pensent par exemple vos éditeurs Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus?
Eh bien, écoutez, je ne suis pas prophète et je ne souhaite pas l'être. L'espérance pour le yiddish, elle est double, je crois. Elle est, premièrement, il y a toute une partie des ultra-orthodoxes qui travaillent les textes, qui commentent les textes en yiddish et qui maintiennent la langue. C'est une langue qui m'est relativement étrangère parce qu'elle ne porte pas du tout les mêmes valeurs que celles que défendaient notamment les écrivains yiddish. Mais néanmoins, elle est vivante pour eux dans la mesure où ils commentent les textes sacrés dans cette langue et peut-être qu'elle pourra donner un développement ultérieur qui la fera vivre. Par ailleurs, je pense qu'il y a des endroits, des associations qui perpétuent cette langue et qui y mettent tout leur cœur et tout leur enthousiasme et toute leur force à maintenir cette langue et effectivement cela donne des résultats. Et puis enfin, il y a ce à quoi je tiens éminemment, c'est la traduction qui transmet cette langue. Or, Benjamin disait que toute traduction comporte la nostalgie de la langue absente. Eh bien, je pense que cette nostalgie est également quelque chose qui peut être fécond et peut-être retourner quelques-uns, en tout cas une partie de la population juive, vers le yiddish.
Merci Rachel Hertel pour ce beau voyage que l'on aurait envie de continuer encore longtemps. J'avais encore de très nombreuses questions. Merci d'avoir accepté de poursuivre la métamorphose de cette mélodie, de votre mélodie que les auditeurs pourront continuer à entendre en se plongeant avec délice dans Mémoire du Yiddish, Transmettre une langue assassinée, chez Albin Michel, Entretien avec Stéphane Bou, un vrai petit bijou où chaque mot est une porte vers d'autres univers, un livre qui se lit en lisant parallèlement ou successivement les autres livres dont nous avons parlé, à commencer par cette nouveauté aux éditions de l'Antilope, Dans les bagnes du Tsar, d'Alpern Levick, que vous venez de traduire, pas moins de 560 pages, un livre magnifique, un livre dont on ressort peut-être avec de la nostalgie, mais certainement beaucoup plus humain, que le Yiddish appelle se sentir mensch. Les auditeurs retrouveront toute votre bibliographie et audiographie sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Merci encore à Rachel Hertel pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites.
Merci à vous.
Merci à vous encore. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la réalisation, comme d'habitude, qui apparemment a décidé d'apprendre le Yiddish, Dany Journeau, à la prise de son aujourd'hui, Pierrick Charles, Kol Tov, Leitraot, au revoir, Zay Gesund, portez-vous bien, comme on dit en Yiddish, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.